Judith Bonin, on est très content de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Mola pour la présentation de votre biographie coécrite avec Pierre-Emmanuel Guigot, biographie qui porte le nom sobre de Mitterrand et qui est parue très récemment, janvier 2026, au PUF. Une biographie de 200 pages qui vient aussi, j'allais dire couronner, mais en tout cas sanctionner votre trajectoire de chercheuse puisque vous avez déjà publié un certain nombre de livres, et celui-ci l'année dernière, « Changer la vie et le monde, l'internationalisme du Parti socialiste au temps de François Mitterrand » aux éditions Le Bord de l'eau, et qui revient en fait sur votre domaine de spécialité qui est les relations internationales et l'histoire politique du Parti socialiste. Là, vous revenez, et on le comprend, on est en 2026, c'est les 30 ans de la mort de François Mitterrand, vous revenez dans cette biographie de 200 pages, et avec un autre spécialiste du Parti socialiste qui est Pierre-Emmanuel Guigot, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est-Créteil, vous revenez sur le parcours du seul président de la Ve République qui ait fait deux septennats, 14 ans à la tête de l'État français. Et je précise que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, donc vous jouez presque à domicile aujourd'hui, et c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dans ce sillage des dernières semaines, des 30 ans de la mort de Mitterrand, on voit bien que s'il est connu de tout le monde, il laisse une image et une mémoire qu'on pourrait dire contrariée, notamment à gauche, mais pas que, avec un certain nombre de sujets polémiques qu'on va évoquer. Mais au-delà des polémiques, l'intérêt de cet ouvrage, c'est aussi de faire le point dans une synthèse sur les recherches récentes. Et donc, moi, ma question toute bête, pour commencer, c'est pourquoi cette biographie? Qu'est-ce qui vous a poussé, Pierre-Emmanuel Guigot et vous-même, à aller vers ce livre?
Alors, merci beaucoup de m'accueillir ici pour présenter ce livre. Alors, ce qui nous a poussé, c'est d'une part, en partie, le calendrier. Effectivement, c'était les 30 ans de la disparition de Mitterrand, et les années en 6, il est né en 1916, sont aussi des années de commémoration plus globales de sa vie et de sa carrière politique. Et en fait, la dernière célébration, ça avait été 2016, où vraiment, pour le centenaire de sa naissance, il y avait eu énormément d'ouvrages et des ouvertures d'archives qui, en fait, n'avaient pas nécessairement été inclus dans les ouvrages justement publiés en 2016. Donc la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'il y avait vraiment un besoin de revenir sur les acquis en fait, historiographiques de ces 10 dernières années. Il y en a un certain nombre. Et à travers non pas un ouvrage volumineux, mais vraiment un ouvrage destiné au grand public, et notamment on est tous les deux enseignants, Pierre-Emmanuel et moi, et nous-mêmes, nous n'avons pas eu à voter pour François Mitterrand, on est une des premières générations d'historiens dans ce cas, et nos étudiants, souvent pour eux, c'est un personnage qui reste assez énigmatique, soit inconnu, soit résumé à très grands traits, soit aussi réduit parfois aux polémiques. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire ce point de jonction entre un état des lieux factuel, d'une part, un état des lieux historiographique, mais accessible, de manière à ce que, justement, on puisse démêler ce qui relève de la rumeur persistante, médiatique ou pas, et puis des faits et des acquis historiographiques.
Alors ça, on va y revenir. Je ne suis pas là du tout pour juger, mais c'est vrai que on connaît déjà cette collection au PUF, et c'est des ouvrages assez resserrés. Ici, l'ouvrage fait 224 pages, mais 200 d'écriture. Et à titre personnel, la lecture, pour moi qui suis incompétent sur la question, est très, très synthétique, très rapide. Avec, vous le dites, ce qui est intéressant, c'est dans chaque chapitre, un retour sur comment s'est construit la mémoire des faits et les différentes polémiques. Donc ça, on va y revenir, c'est intéressant. Il y a en même temps l'histoire et la mémoire. Et donc ça c'est intéressant. Alors, un des partis pris de l'ouvrage qu'on voit tout de suite quand on l'ouvre et qu'on regarde le plan, et que j'ai trouvé intéressant, c'est une biographie historique, c'est une biographie politique. On aurait pu s'attendre à avoir des étapes, des séquences de parcours politique. Or, dès le départ, on a une plongée dans l'intime, notamment pour le premier chapitre, dans l'intime de l'enfance en Charente, etc. Et par la suite, il y a d'autres chapitres sur ces questions-là. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que, par exemple, si on en revient au premier chapitre, cette question de l'enfance et des années de formation, comment ça éclaire le personnage?
Alors, c'est un parti pris qui était celui, déjà d'être exhaustif sur sa vie et que partage un certain nombre de biographies. Mais c'est vrai que dans le cas de Mitterrand, vie privée et vie publique, et d'ailleurs on aborde aussi cette question plus frontalement dans le tout dernier chapitre, c'est des choses qui sont très présentes. C'est-à-dire qu'il appartient à cette génération d'hommes politiques qui connaissent la pipolisation de la vie politique. Le moment où la vie privée entre en politique, c'est à peu près les années 60. C'est Jean Le Canuet qui copie le style Kennedy en 1965. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing l'a beaucoup fait. Et François Mitterrand s'y met. C'est-à-dire que, par exemple, il ouvre les portes de sa maison hollandaise à Latch et donne à voir sa vie familiale, alors mise en scène, etc., mais dès les années 70. Et en fait, il réfléchit à son image de manière très sérieuse parce qu'il se voit un destin politique dès les années 50. Et donc, il réfléchit aussi à ce qu'il dit, ne dit pas, de sa vie privée. Donc, d'une part, en fait, même en s'en tenant à la biographie politique, ça aurait été compliqué d'évincer le privé. Et ensuite, dans ce premier chapitre plus précisément, ce qui nous semblait important de souligner, c'est un certain nombre de continuités. Parce que justement, aussi, dans le personnage de François Mitterrand, on met souvent en avant sa sinuosité, ses changements, ses évolutions. Et ce premier chapitre, il permet de poser un certain nombre de choses. Par exemple, le fait qu'il a une identité sociale assez stable. C'est un bourgeois. Il est né dans la bourgeoisie charentaise. Et globalement, il aura un mode de vie bourgeois toute sa vie. Il est très ancré, justement, dans des terroirs et des territoires. La Charente, les Landes, mais aussi politiquement dans la Nièvre. On y reviendra sans doute, c'est un des traits de sa présence au monde, c'est-à-dire une vue par les territoires et par l'angle très français, quand bien même il a une ouverture internationale importante et précoce. C'est une manière de souligner aussi son rapport particulier à des questions centrales pour la gauche, en fait, par exemple la laïcité, de voir que son éducation religieuse, elle est très présente via sa famille maternelle, qu'il passe par un collège religieux catholique à Angoulême, et qu'en fait, contrairement à d'autres qui vont parfois y vivre une rupture en fait, dans leur biographie, un arrêt de la foi, etc., il en garde plutôt l'idée d'une discipline, d'une culture qui l'appétrit, même si ensuite il aura une pratique religieuse assez éloigné de l'orthodoxie catholique, mais ça le marque et ça explique, par exemple, à la fin de sa vie, un rapport à la spiritualité, aux forces de l'esprit, etc. Donc, bien sûr, il n'y a pas de déterminisme absolu sur tous les sujets, mais il y a comme ça des ancrages assez importants. Et puis, le vrai basculement politique de François Mitterrand, c'est la période de la guerre, le passage de la droite à la gauche. Et donc, pour comprendre cette droite initiale, il faut revenir aussi sur sa sociabilité politique et combien il n'est pas en rupture en fait avec cette famille qui est d'une droite très conservatrice, catholique, qui pour autant n'est pas marquée par exemple par l'antisémitisme de l'Action française, qui n'est voilà pour replacer aussi ce qu'est cette droite en fait qui l'épouse quand il est étudiant et dont il se sépare progressivement ensuite.
Intéressant, et effectivement, du coup, il y a aussi cette histoire. C'est intéressant la réponse sur le côté. Parler de l'intime, c'est aussi un moment de la manière dont on fait la politique et cette intégration-là qui n'est pas évidente dans des moments préalables, enfin, je veux dire, à la 4e ou à la 5e République, où effectivement la vie privée et publique étaient très séparées. Alors, vous venez de le dire, on entre là dans un des premiers chapitres des polémiques Mitterrand, on peut dire ça. Et encore une fois, pour quelqu'un qui ne connaît pas, on voit aujourd'hui, dans ce qu'est le débat public, avec ses quelques qualités et ses très nombreux défauts, notamment sur les réseaux sociaux, toujours arriver cette image de Mitterrand décoré par Pétain et cette accusation d'un Mitterrand pétainiste, collaborationniste, hein, etc. C'est des choses qui traînent, voilà, comme vous le dites, qui sont des très, très attachées au personnage de Mitterrand. Et moi, quand je lis votre chapitre, je découvre beaucoup de choses et je me rends compte qu'effectivement, vous le dites, il vient de la droite conservatrice. Il est, et ce que j'ai apprécié dans le chapitre, c'est ce côté très neutre, dépassionné. Vous décrivez, et ensuite, vous expliquez les polémiques, mais vous dites noir sur blanc, voilà, qu'il a participé au régime de Vichy. Et puis, cette importance de la chronologie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il n'y a pas de brouillage, il y a 41, la participation, puis 43, l'entrée en résistance. Alors, est-ce que, bon, je sais que c'est une gageure, mais en quelques minutes, vu que c'est un des éléments sur lesquels qui reviennent de manière sempiternelle sur Mitterrand, quelle est cette trajectoire? Comment vous le dites? Comment il passe? C'est quand même fou, quoi, de cette droite conservatrice à la gauche dans le sillage de la guerre. C'est quoi ces années-là?
Alors, en fait, factuellement, c'était un des enjeux de l'ouvrage. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont connues. Bien sûr qu'il reste des zones d'ombre, et notamment quand on touche à des choses très privées sur lesquelles on n'a pas toujours des sources au jour le jour. J'y reviendrai, mais le basculement en 43 dans la résistance, il n'est pas clair. Et il a été peu clair pour un certain nombre de personnes qui ont navigué entre deux eaux, entre Vichy et une entrée en résistance qui ne s'est pas toujours faite dès le départ, et d'abord par antipétainiste. Ce n'est pas son cas à lui. Il y a aussi ses relations avec Bousquet, sur lesquelles on ne sait pas exactement ce qu'il lui doit, à quel moment, etc.
Alors, donc, Bousquet, qui à l'époque
René Bousquet, qui a été responsable notamment de la rafle du Veldiv, et qui, à partir de novembre 1942, en dépit de ses fonctions à Vichy, commence à rendre des services à la résistance, et notamment au mouvement de Mitterrand, et qu'il verra ensuite jusque tard dans les années 80. Et donc, en fait, ces sujets-là, il reste en fait des choses à découvrir, si tant est qu'on trouve de nouvelles sources. Mais la trame générale, elle est connue. C'est-à-dire qu'il entre, il est mobilisé au moment de la guerre, il est fait prisonnier et blessé en 40. En 41, il s'évade au bout de trois tentatives. Il rejoint Vichy, il n'a pas de situation professionnelle et donc il se tourne vers ses réseaux familiaux, typiquement, et notamment des belles familles de ses sœurs et de ses frères et sœurs. Et il prend deux postes à Vichy, à la documentation d'un service qui est la Légion combattante, qui va donner lieu notamment à la milice. Et alors il y passe brièvement et à la documentation, mais il y passe, ce qui ensuite taira. Et puis surtout, il travaille au commissariat général au reclassement des prisonniers de guerre. Donc en fait, il reste dans sa zone, ancien prisonnier, évadé, qui va aider des camarades français prisonniers en Allemagne. À ce titre, il fait très bien son travail. Enfin, c'est ce qu'estime Vichy. Et donc, il rencontre Pétain en octobre 42. Une photo est prise pour immortaliser le moment. C'est une première chose. Novembre 42, les choses bougent. Il y a toute l'évolution et notamment l'invasion de la zone libre, etc. Et puis, Mitterrand, lui, ne bouge pas. Ce qu'on sait de cette époque, c'est qu'il adhère assez au travail famille-patrie. Il trouve que Pétain est légitime et il le sert sans grand, a priori, état d'âme. Il n'est pas antisémite, mais il ne s'oppose pas non plus. Il ne prend pas de prise de parole publique contre les persécutions contre les Juifs en France, ni d'ailleurs sur le régime nazi. Et puis, à partir de 1943, son chef démissionne, par opposition notamment aux équilibres internes à Vichy. Et là, lui, il glisse progressivement à partir de 1943. Il commence à militer au sein des réseaux des prisonniers de guerre, mais d'abord parce qu'il s'oppose à la pression allemande sur la France, et pas parce qu'il est en rupture avec la révolution nationale vichyste. C'est pas ces slogans-là qui l'amènent à militer. C'est d'abord résister à la tutelle allemande et aider les prisonniers de guerre. Et il y a ce moment où il reçoit la Francisque, qui est aussi un moment polémique, au printemps 1943. Mais à ce moment-là, il a démissionné de son poste en janvier à Vichy. Et on a des faisceaux qui partent un peu dans les deux directions. Premier grand acte de résistance, juillet 1943. Il fait un éclat dans une salle où un responsable de Vichy faisait la promotion du service du travail obligatoire. Et ce sera salué par Radio Londres. Et puis novembre 1943, il part à Londres, à Alger. Et à partir de là, il a une trajectoire de résistant. Mais donc c'est ces mois-là de 1943 qui sont compliqués à saisir au jour le jour. Et si on regarde les travaux, par exemple, sur l'administration de Vichy, on voit qu'il y a eu assez peu de résistance, en fait. La résistance active dans l'État à Vichy, la fonction publique d'État, c'est, je crois, 0,2%, d'après les chiffres de Jean-Marc Baruch. Et donc, à ce moment-là, il n'a pas une action particulièrement, du point de vue moral, quand on le regarde ensuite, postérieurement. Il n'est ni parmi les premiers militants, ni parmi les derniers. Et en fait, tout ce jeu de la mémoire avec cette séquence est important à saisir, parce que, justement, au moment de 44, il arrive, il est résistant pour tout le monde. Et d'ailleurs, il a un temps, un poste dans un des gouvernements, alors pas comme ministre, mais dans un des gouvernements de Gaulle. Et puis lui-même, il joue un peu sur les deux tableaux. En 45, il publie un livre où il dit, il met en avant sa résistance. 46, dans des élections dans la Nièvre, il se doute que son électorat est partagé et qu'il y a parmi eux des anciens fidèles de Vichy. Et donc, il évoque son passage par les deux institutions. Et puis, au fur et à mesure que le mythe résistentialiste de cette France 100% résistante s'installe, en réalité, ce passé devient de moins en moins compréhensible. Et ce que montrent les historiens, et notamment à la suite de la révélation de Pierre Péan, qui publie en 1994 un ouvrage « Une jeunesse française », qui a été vécu comme une révélation pour beaucoup, et ce que montrent les historiens, et notamment Vergès Chéron, c'est que, en fait, ce moment, Chénion, ce moment de 1994, c'est un moment où les historiens eux-mêmes commencent à penser les vichisto-résistants. Le fait qu'effectivement, ce n'est pas tout noir et tout blanc, il y a eu des gens, un certain nombre, qui ont fait les deux. Et ça, pour la mémoire, en revanche, ce n'est pas encore compréhensible. Et depuis 1994, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que vous avez ceux qui ont reçu l'historiographie et qui savent désormais que, en réalité, les deux séquences ont pu exister dans les parcours d'un certain nombre d'hommes politiques. Et puis, d'autres qui n'ont pas connaissance de ces travaux ou qui gardent une posture aussi qui est plus morale et qui estiment qu'un homme qui ensuite présidera une France socialiste aurait dû avoir un parcours 100% résistant, voire qui lisent à l'aune de sa politique économique des années 80, une espèce de persistance d'un engagement à droite, ce que je trouve beaucoup plus faux sur le plan historique.
Alors, effectivement, là je trouve que ça n'engage que moi. Les chapitres sont très courts, hein, 200 pages pour dire tout ça. Et notamment sur ce chapitre, il y a cette notion de vichisto-résistant qui est sculptée dans l'historiographie. Et donc, vous avez choisi pour les chapitres vichisto, trois petits points, résistant par la suite, pour résumer cette chronologie de 41 à 43, mais dont vous venez de nous dire les éléments principaux et qui sont intéressants. Ce qui m'a beaucoup marqué dans la suite du chapitre, qui résume du coup toutes les polémiques autour de tout ça, non seulement cette image qui ressort sur les réseaux sociaux en permanence, cette photo, mais le livre de 94, ce qui est assez fou, c'est de voir comment, en fait, c'est pas un problème. Pendant des années, c'est pas un problème, et que c'est plus tard que le paradigme mémoriel du résistentialisme et de la suite s'installe et devient un problème. Donc ça, c'est intéressant. On peut renvoyer au livre. Une fois que la guerre se termine. Alors, j'avais pas réfléchi à ça, mais De Gaulle a son passé de prisonnier de guerre, mais de 14-18. Peut-être ça, il s'aimait pas beaucoup, ça jouait peut-être, mais bon, bref. Moi, ce qui m'a frappé dans le tout, juste après la Seconde Guerre mondiale, 44-45, c'est la rapidité de la carrière de Mitterrand. C'est-à-dire que, comme je dis, moi, j'identifie pas bien les arcanes, il a son rôle dans son mouvement d'anciens prisonniers de guerre, mais en fait, très rapidement, il passe, vous l'avez rappelé, de son ancrage dans la Nièvre à des postes de ministre, ministre de l'Outre-mer dans le gouvernement Pleven puis en 1950, puis ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux. Comment il fait ? Enfin, excusez, là, la question est très simple. Comment un homme qui, au final, est un petit rouage de l'administration, etc., et a une petite carrière, comment, en l'espace de 4-5 ans, est-ce que c'est par les relations, les réseaux, l'entre-soi, ou voilà, quelle est sa tactique pour commencer cette carrière ?
Alors, c'est un peu les trois. C'est-à-dire que, bien sûr, il a des réseaux, mais ce qui va compter, c'est que assez vite, alors, d'une part, il se décide à rentrer en politique vraiment. Et il le fait assez vite. En fait, dès les premières élections de 46, il se présente dans la Seine, dans la Nièvre. Il va chercher un fief parce que la 4e République impose un ancrage local et va réussir à le creuser dans la Nièvre. Et puis, il appartient à un petit parti, certes, donc l'Union démocratique, l'UDSR.
L'acronyme est compliqué déjà, mais...
L'Union démocratique et socialiste de la résistance, qui est un petit parti, mais qui est un petit parti charnière. La 4e République, on en parle beaucoup désormais quand on s'interroge sur le parlementarisme, etc., de la 5e. Il faut voir que vous avez deux gros blocs que les forces de gouvernement ne veulent pas avoir au pouvoir, qui sont les gaullistes et les communistes. Et en fait, tout parti charnière qui peut se tourner et sur sa gauche et sur sa droite a de grandes chances d'être au gouvernement. Et c'est le cas du DSR sur la période de la 4e, 46 à 58. Ils sont de tous les cabinets, sauf trois très très éphémères. Donc ils sont vraiment à chaque fois en bonne place. Et lui, avec René Pleven, est une des deux grandes figures, puis ensuite il en prend la tête, de ce parti. Donc en fait, une des premières raisons, c'est certes, il n'a pas un parti de masse derrière lui, mais il a un parti charnière et il s'en sert bien. Donc c'est la première chose. Ensuite, il a vraiment des réseaux, y compris des gens qui sont capables de financer ses campagnes politiques, etc., des amis qui l'aident. Il a visiblement un sens politique. C'est-à-dire qu'il prend des postes qui ont l'importance. Alors l'Outre-mer en 1950, parfois on fait un peu un contresens, on dit l'Empire était énorme, c'était un poste hyper crucial. Non, c'était souvent un poste qui arrivait en fin de Conseil des ministres, mais il sent que c'est en train de bouger dans l'Outre-mer et qu'éventuellement il y a des choses à faire là. Donc il mène sa barque d'une certaine manière assez intelligemment. Et c'est via ces postes que progressivement il glisse à gauche. C'est-à-dire que ses premières élections, en 46, il est au centre droit. Mais progressivement, l'UDSR, vous allez avoir les plus gaullistes, les plus à gauche. Et lui, il va, au fur et à mesure de tout un tas de prises de décision, par les alliances et les oppositions, en fait, se décaler sur l'échiquier politique en allant vers la gauche.
Et ça, c'est une vision tactique et stratégique ou ça correspond à un certain nombre de convictions c'est un esprit du temps, enfin...
Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, par exemple, en 46, il se fait élire en parlant de la dictature communiste, etc. Et puis, au sénatorial, en 59, il se fait élire avec le support des communistes. Donc, bien sûr que dans les alliances, entre le discours et les alliances électorales, il y a toujours une part d'opportunisme et de stratégie. Mais il y a aussi des lignes directrices. Par exemple, l'Empire va contribuer, et ses positions sur l'Empire vont contribuer à le faire glisser à gauche. Parce que, par exemple, il va participer, même s'il n'a pas tout fait, l'ancrage du Rassemblement démocratique africain, donc grand parti africain, décroché du Parti communiste, il rattachait à l'UDSR. Et ça, pour tout un tas d'ultra-colonialistes, ça le classe dans les bradeurs d'Empire. Donc il y a un peu des deux. Il y a des convictions, et puis sur le moment, un paysage politique qui vous place d'un côté ou de l'autre. Et alors, sur la question de la sincérité générale, c'est une carrière politique qui commence en 46, qui se clôture en 96, et son glissement à gauche est progressif dans les années 50. Mais donc, recouvre en gros l'essentiel de sa carrière politique. Donc ensuite, c'est un débat infini sur la question de la sincérité, de la pertinence d'une étiquette politique en général, etc.
Alors ça, pour ce qui est de son rapport à l'Empire et au monde, on y viendra dans une autre question, mais il y a aussi là, dans ces années-là, vous le disiez, l'ancrage territorial dans la Nièvre. Là, c'est intéressant, on voit aussi toutes les déconvenues, hein, les échecs aux élections. Comment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, il prend en main la presse locale. Comment il construit ce bastion, enfin son ancrage territorial dans la Nièvre?
Alors, dans la Nièvre, c'est notamment les travaux de Jean Vigreux qui reviennent là-dessus. Il a un ancrage, alors... Au départ, c'est comme beaucoup de parachutage, un peu un hasard. C'est-à-dire que ça lui est conseillé par un collègue qui souhaite avoir la place libre dans la Seine où lui avait été candidat une première fois. Donc il y a une part, bien sûr, de stratégie vis-à-vis de la carte électorale. Mais ensuite, effectivement, il se saisit du courrier de la Nièvre, qui est un organe du coup, de presse locale qui fait sa promotion. Il y habite jamais, mais il s'y rend très souvent. Il a une manière de... Par exemple, tout le monde se souvient de Château-Chinon, l'annonce du 10 mai 81. Donc il y a aussi des moments importants où ce territoire, cet accrochage au territoire est bien souligné. Et on a une époque où le cumul des mandats est la règle et pas du tout un sujet de critique politique. Et de fait, il est maire, député, sénateur. Et donc, il représente son territoire dans divers lieux et voilà, c'est comme ça qu'il bâtit son tremplin, si je puis dire, dans la quatrième.
Ça m'a amusé le choix qui choisit Château-Chinon plutôt qu'une autre ville, parce qu'il trouvait que le nom était plus
porteur. Plus symbolique. Mais ça marche parce qu'il obtient dans les années 60 un jumelage avec la ville de Cortone en Toscane, qui est d'une taille démographique et d'un patrimoine bien plus important que celui de Château-Chinon. Et en fait, celui qui a conclu le jumelage raconte que la première fois où il est arrivé à Château-Chinon, il s'est rendu compte de son erreur, c'est-à-dire qu'il s'attendait à une métropole, mais en tout cas à quelque chose d'une autre ampleur. Et il raconte que par la suite, bien lui en a pris, puisque en fait, la célébrité de la ville s'est accrue avec celle de François Mitterrand.
Oui, c'est sûr que quand on voit les nombres d'électeurs qui votent à Château-Chinon à l'époque, 490 d'un côté et 500 de l'autre, c'est pas énorme. Il a ce sens politique et symbolique de dire, bon, Château et Chinon, ça parle beaucoup plus que d'autres villes.
Clamart.
Ce qui est intéressant là-dedans et dans la suite des chapitres, c'est que vous cachez pas non plus les déconvenus, les moments de traversée du désert qui sont nombreux, hein. Avec des défaites aux élections, que ce soit aux élections locales ou aux élections sénatoriales, législatives, etc., même les premières présidentielles. Et à travers ces différentes déconvenues, on voit que Mitterrand, dont on a vu dans ce que vous nous dites, que pour l'instant, c'est pas un homme d'appareil de parti, enfin, en tout cas, de grands partis, de masse, etc., comprend que les règles sont en train de changer et qu'il faut aller à la conquête d'un parti. Et donc, il va, ça, on s'en doute, puisqu'on connaît la suite, il va aller à la conquête du Parti socialiste. Là intervient aussi votre co-écrivain Pierre-Emmanuel Guigot, qui connaît bien ces arcanes-là, puisqu'il a écrit non seulement une biographie de Pierre Mauroy, mais aussi une de Michel Rocard. Comment fait, enfin, je veux dire, le Parti socialiste, la SFIO, hein, section française de l'Internationale ouvrière, c'est pas rien, c'est des décennies d'histoire de Jaurès, de Blum. Comment, j'ai envie de dire, le petit Mitterrand conquiert la forteresse socialiste? Comment il se débrouille dans ces années-là?
Alors, justement, il n'est pas si petit que ça. C'est-à-dire que ça a été un ministre omniprésent de la quatrième, donc c'est une figure très identifiée, y compris nationalement par l'électorat. Il écrit en 1964 le coup d'État permanent, qui le lance là aussi à une autre échelle. C'est-à-dire qu'il se pose en fait dans ce livre en opposant principal à De Gaulle. Et c'est l'un des ressorts qui explique qu'en 65, il arrive à être le candidat de la gauche unie, faute d'autres candidats mieux placés que lui, et qu'il met en ballotage le général de Gaulle, qui n'avait pas voulu, enfin, estimé nécessaire de faire campagne. Et donc 65, c'est encore un cran au-dessus, mais cette première semi-réussite, elle va être un peu balayée. On parlait des moments de traversée du désert, il y avait eu l'affaire de l'Observatoire en 59. Là, c'est 68. 68, en fait, sa prise de parole est jugée inopportune. Il constate la vacance du pouvoir, se déclare candidat de manière jugé trop précoce en fait au vu des événements, et donc Charles de Gaulle le ridiculisera en revenant. Et à ce moment-là, oui, en 68, il est dans cette traversée du désert, ce qui explique qu'il n'est pas candidat en 69. Il a été candidat en 65, en 74 et puis en 81.
Oui, ça vous le montrez bien. Il ne voit pas le moment 68. Il comprend pas.
Non. Et son nom est hué par la jeunesse, etc. Alors, il faudrait regarder plus précisément, mais il y a des raisons. Typiquement, il avait tenté d'intégrer le PSU, mais par exemple, son passé colonial fait qu'au PSU, on n'a pas très envie d'intégrer François Mitterrand dans les années 60. Donc, 65, 68, la baisse, 69, il est absent. Mais 69, c'est un résultat terrible pour la gauche en termes de résultats électoraux. Et toute la gauche non communiste rentre dans cette phase de tenter justement de s'adapter aux nouvelles règles de la Ve République avec une élection au suffrage universel direct du président. Et donc la nécessité de toute façon à la fin d'avoir quelqu'un au second tour pour porter les couleurs de la gauche. Et donc 69-71, c'est une période très compliquée pour le mouvement socialiste avec un nouveau parti socialiste en 69, des congrès qui visent tous à réformer et en gros à faire grossir par la réunion les forces de gauche. Et Mitterrand, un peu comme en 65, en 71, il arrive comme un outsider, d'une certaine manière. Il vient avec la Convention des institutions républicaines, son parti à lui, mais avec son équipe, des hommes qui lui sont fidèles et qui le resteront ensuite, par exemple Pierre Joxe ou Claude Estier. Il y a aussi un côté faute de mieux. C'est-à-dire que, de même qu'il y a eu des arbitrages en 65 où il y a des choses qu'on tait, etc., parce qu'on estime qu'il est le mieux placé, même chose en 71. C'est-à-dire qu'il arrive... Il fait le job d'un point de vue rhétorique, c'est-à-dire qu'il marxise son discours pour se mettre enfin en phase avec cette gauche post-68. Il a un discours de rupture, il reprend tout un tas d'éléments très marxisants de la culture socialiste qui n'est pas la sienne. Et pour ces raisons-là, et pour des raisons stratégiques, c'est lui qui l'emporte.
Mais c'est, effectivement, c'est intéressant. Alors j'avoue, j'ai apprécié, puisque moi, j'ai pas pu voter pour Mitterrand, mais bon, j'ai connu quelques années de voir, par exemple, dans ses fidèles, Édith Cresson, qu'on retrouve effectivement en 90 comme ministre, etc. Ça, on voit la durabilité de ces réseaux-là, des hommes qui l'entourent, et c'est intéressant cette histoire, voilà, des réseaux socialistes. Là, effectivement, il y a les années 70, rien n'était écrit. Hein, la victoire de 81 n'était pas, nous on la connaît, mais elle n'était pas écrite. Et on voit d'ailleurs les contestations, par exemple, de Michel Rocard au sein de la figure de Mitterrand, au sein du mouvement. Et puis, on avance un petit peu, on ne peut pas tout dire. Et puis, c'est aussi l'objet de lire le livre, de découvrir tous ces éléments-là, hein, d'histoire politique. 81, il est élu. Et ce qu'on connaît, là, on rentre dans peut-être un deuxième moment très polémique de l'héritage Mitterrand, notamment de l'héritage à gauche, qui est le fameux tournant de la rigueur en 83. C'est-à-dire qu'on a un double moment extrêmement rapide, où en 81, les gens que j'ai pu connaître, qui ont connu cette époque-là, attendaient les chars sur les Champs-Élysées et la dictature du prolétariat. Et c'est toujours couplé. Vous avez écrit un article où vous parlez de ce héros impossible de la gauche. Tout de suite, le tournant de la rigueur en 83. Et ma question, voilà, c'est bien fait dans le livre, c'est quel est le bilan ? C'est-à-dire, on voit bien que vous montrez les choses et vous montrez quand même il y a eu beaucoup d'avancées sociales dans ces années-là. Et pourquoi tout d'un coup, 83, il y a ce changement de cours qui pèse encore aujourd'hui sur la vision qu'on peut avoir des années de ces acquis sociaux.
Alors, c'est vrai que si vous regardez, par exemple, la campagne que le PS aujourd'hui a fait sur les réseaux sociaux pour commémorer Mitterrand, globalement, ce qui est sur l'affiche, en dehors de la politique européenne, c'est tous les acquis de 81-82. Ça va être, par exemple, les 39 heures, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, les droits des travailleurs avec les lois Auroux. Du point de vue plus sociétal, ça va être l'abolition de la peine de mort, et on en a beaucoup parlé avec la panthéonisation de Robert Badinter, mais également la dépénalisation de l'homosexualité, le remboursement de l'IVG, donc des mesures qui sont fortes, qui sont prises dès le début du mandat. On parle moins, bien sûr, des nationalisations qui ont connu, pour le coup, au fur et à mesure des alternances d'autres destinées. Et donc ce bilan-là, social et sociétal, souvent, il est mis en avant par les socialistes et retenu, et reconnu, globalement, à gauche. Et ensuite vient ce trauma. Frédéric Bozeau, dans un ouvrage récent qui est dédié à cette question du tournant de la rigueur, parle d'une névrose nationale. Effectivement, il y a cette idée qu'en 83, on a eu un choc de l'électorat de gauche Quant à au choix de politique étrangère européenne et des choix monétaires faits, avec cette idée que au moment de 83 et de la dévaluation notamment de la monnaie et du choix dressé dans le système monétaire européen, pour simplifier, la gauche aurait choisi l'Europe et le ralliement au marché contre la poursuite d'un volontarisme social et économique intrinsèquement socialiste pour lequel il avait été élu. Alors, sur le strict point de vue de la politique économique, différents travaux reviennent et nuancent très fortement cette idée d'un coup de braquet très très violent. C'est notamment les travaux de Mathieu Fulat et désormais aussi de Frédéric Bozo. Mais il reste que dans la mémoire, dans les représentations, dans la communication également du gouvernement qui va dramatiser ce choix de 83, il y a vraiment un avant-après qui rend la continuité des deux septennats moins lisible. Et c'est vrai qu'en termes de mesures sociales, il y a encore des choses. Le RMI, l'ancêtre du RSA, c'est 1988. Mais ensuite, on a l'impression que les mandats, qui sont par ailleurs entrecoupés de cohabitation, sont surtout portés sur la politique étrangère, la diplomatie mitterrandienne. Et ça soulève d'autres questions sur son bilan. Mais effectivement, dans la mémoire nationale, il y a en tout cas deux moments, 81, donc craint ou espéré, et 83, comme le soulagement du retour à la raison, ou au contraire, le traumatisme de la trahison. Ouais.
Oui, c'est intéressant et on voit qu'effectivement aujourd'hui cette date-là est encore très 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 présente comme un frein. Alors dans un contexte qui va nous amener à la question suivante, mais qu'on connaît bien, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, Ronald Reagan aux États-Unis, donc un grand grand tournant néolibéral qui a beaucoup marqué et dans laquelle la France a ce cours un peu particulier. Alors justement, on arrive là dans vos domaines de spécialité qui sont non seulement dans vos ouvrages précédents, la politique étrangère du Parti socialiste, mais spécifiquement ce que vous appelez les mondes de François Mitterrand, la représentation de l'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est l'ailleurs de la décolonisation, cet ailleurs de la mondialisation, de la construction de l'Europe, dans un contexte où Mitterrand, on ne l'a pas encore dit, mais a eu des responsabilités en Algérie. Alors là, comme c'est vos domaines, on a un peu de temps. Comment Mitterrand, qui va diriger la France pendant 14 ans, comment il a construit sa vision des relations internationales et comment il l'incarne dans la politique étrangère de la France dans ces années-là. C'est un homme qui est ambigu et complexe dans ces rapports-là avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique. Comment ça fonctionne, tout ça?
Alors, moi, c'est effectivement le cœur de mes travaux. Ce qui m'intéresse particulièrement dans François Mitterrand, c'est que donc, sa vie politique, elle couvre tout le second XXe siècle, toute la période de la guerre froide et un peu au-delà. Et à travers lui, on peut vraiment questionner la manière dont sont perçus l'accélération de la mondialisation d'après Seconde Guerre mondiale, mais également ce que les historiens soulignent, c'est-à-dire l'accélération encore dans les années 70, justement, du point de vue de l'économie, mais plus largement du point de vue des échanges à l'échelle mondiale. Et François Mitterrand, il permet justement de penser un peu l'articulation de ces différentes séquences. Alors en fait, quand il arrive aux responsabilités en 81, j'ai repris l'expression de Dubert Védrine qui lui utilise les mondes de François Mitterrand pour un titre sur un ouvrage qui concerne sa diplomatie. Ces mondes à lui, en fait, quand il arrive en 81, sont déjà largement construits. C'est pas nécessairement le cas de tous les hommes de sa génération. Il a que quelques années d'écart avec Georges Pompidou, mais ils n'arrivent pas aux responsabilités au même moment de leur vie. Et lui, il arrive après avoir vraiment beaucoup voyagé, beaucoup visité le monde et aussi eu des responsabilités très importantes à d'autres échelles que celle de la France métropolitaine.
Oui, vous écrivez un homme globe-trotteur, je ne savais pas du tout.
Un peu. C'est-à-dire qu'il commence à faire ses plus grands voyages dès l'immédiate après-guerre. Alors déjà, il fait partie de cette bourgeoisie qui va en Angleterre par faire son anglais l'été, qui voyage facilement en Belgique, qui envisage de le faire en Allemagne. Donc il appartient à une couche sociale déjà qui a un ancrage européen particulier. Et puis ensuite, très vite, il va en 1946 aux États-Unis, au Brésil. Il se rend dans les années 50, pour le coup, en tant que ministre, dans quasiment toute l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique francophone, mais aussi un certain nombre de possessions britanniques, où il y fait des observations qui sont à la fois des observations politiques, mais où il s'intéresse aussi, alors avec un angle qui est celui d'un Français colonial des années 50, à la culture, aux diversités, aux paysages. Sa passion de la nature en Charente, il l'a pour d'autres faunes et d'autres flores. Et donc, il parcourt comme ça énormément de lieux. On l'a beaucoup oublié, mais il le mettait en avant dans sa communication politique en 65, en 74. Il a été en Chine en 61, à un moment où il n'y avait pas de reconnaissance officielle de la Chine par la France. Il rencontre Mao. Il va à San Francisco en 67. Enfin, voilà, en Tchécoslovaquie aussi, il y a un côté où il a couvert énormément de choses. Ça ne veut pas dire qu'il en a tout compris et que c'est un expert des relations internationales sur chacun de ces pays. Mais il a une vision du monde. En tout cas, la question de la France dans le monde est au cœur de sa réflexion. Alors, les quelques peut-être grands angles importants. Le fait qu'il pense vraiment l'Europe comme un outil, et plus que ça, nécessaire à l'indépendance française. C'est-à-dire que toute sa politique, il l'amène en période de guerre froide. Et il y a l'idée, commune avec De Gaulle, mais encore plus européenne chez François Mitterrand, qu'il faut maintenir une indépendance française dans la solidarité atlantique, dans la distance critique avec l'URSS et l'Est. Et pour lui, l'Europe, c'est un des grands moyens de le faire. Il pense en gros ensemble, et l'Europe en fait partie. Et ça, c'est un engagement qui naît très tôt. Il est au mouvement de La Haye en 48, qui dès après-guerre, se dit « Ok, comment est-ce qu'on construit une Europe qui pèsera ?» Il a une obsession du non-retour à l'Europe de 1913. C'est une formule qui revient, et y compris dans son dernier discours à Strasbourg au Parlement européen, où il parle du nationalisme comme le ferment de la guerre. Donc vraiment, ça, c'est une constante de sa vie politique. Et il voit les choses comme un Français et comme un Européen, fondamentalement. Il a un rapport à l'Afrique, c'est un des sujets polémiques aujourd'hui, de discussion et entre historiens et avec le grand public, qui se forge fondamentalement dans la France coloniale de la 4e République. À cette époque, il fait partie plutôt du camp des libéraux et des réformateurs. Il y a très peu d'anticoloniaux dans les années 50, il n'en fait pas partie. Mais il est de ceux qui pensent qu'il faut réformer pour maintenir l'Afrique arrimée à la France, qu'il faut faire moins de violence, mais réformer, mais dans l'idée de maintenir la domination coloniale en Afrique. Dans les années 70, il se fait plus discret parce qu'il n'a clairement pas intérêt politiquement à revenir sur son passé africain. Et ce n'est pas une question pour les électeurs, y compris en 81. Mais effectivement, on en voit le fruit de sa politique africaine, qui est une politique néocoloniale, dans laquelle, par exemple, les relations interpersonnelles qu'il a nouées dans les années 50 pèsent, et pèsent beaucoup. Donc voilà pour les grands éléments, l'Europe, un rapport à l'Afrique ancien, et puis une ouverture sur le monde et une connaissance quand même de la complexité du monde, d'une certaine manière.
Oui, c'est intéressant. Et j'ai une question toute bête, mais il parlait bien anglais ou pas du tout? Comprenait en tout cas.
Il y a jusque dans les années 60 des témoignages, par exemple sa correspondance à Anne, on sait qu'il continue à prendre des cours en anglais, donc les séjours estivaux adolescents n'ont pas suffi. Et il parlait très peu anglais. A priori, il comprenait bien l'italien, mais personne ne l'a jamais entendu parler italien. Alors, il avait aussi un rapport à la langue et à la langue française qui était. Voilà, c'est aussi un homme de lettres très attaché à la précision des mots. Donc il y avait aussi une volonté de ne pas tordre sa pensée en utilisant un mauvais mot dans une langue qui n'était pas la sienne. Et puis, il fait vraiment sa carrière politique à une époque où la francophonie est très très forte. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les années 70, dans les années 70, les élites d'Europe de l'Est parlaient encore beaucoup français, d'Europe du Nord également, toute l'Europe ibérique aussi. Donc, la plupart de ses interlocuteurs parlent français, y compris en Israël, aux États-Unis. On voit d'ailleurs que ça compte, en fait, dans la complicité qu'il est capable de nouer avec des hommes politiques. Ce n'est pas le seul facteur. Il va être très intéressé par les réformes de Gorbatchev, et il y a des interprètes entre eux. Mais ça compte, en fait, cette francophonie, et elle le structure vraiment.
Alors, effectivement, toute cette politique que vous résumez, parce qu'aussi le format l'impose, mais où il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire, elle aboutit à un des éléments des nombreuses polémiques qui touchent la figure Mitterrand, mais qui est celle du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Alors là, effectivement, il faut prendre un peu de temps, ne serait-ce que pour formuler la question. Aujourd'hui, voilà, sur les réseaux, cette question-là, elle est dans les débats en général, elle est évoquée souvent. Il y a eu énormément de recherches, alors soit sur la morphologie de ce génocide, je pense à Hélène Dumas, Stéphane Audouin-Rousseau, mais aussi sur la question très épineuse et très controversée de la responsabilité française dans ce génocide, avec assez récemment la commission Duclert, qui a livré un bilan de plus de 1000 pages, si je ne m'abuse, sur ces questions-là. Alors, on voit le problème, quand il faut évoquer ça en 3 pages, il faut en même temps une densité d'écriture et un sens de la responsabilité qui est fort. Alors je cite, vous en parlez, cette question du Rwanda, en reprenant les termes de la commission Duclert et en disant que la France portait des responsabilités, et Mitterrand lui-même, des responsabilités lourdes et accablantes dans le génocide. Comment vous avez travaillé ça? Comment on écrit ça? Comment en 3 pages, est-ce qu'on relit beaucoup? Enfin, comment vous avez travaillé cette question rwandaise, qui est une des grosses, grosses polémiques qui pèsent encore sur la figure, sur le deuxième septennat de Mitterrand?
Alors, c'est effectivement un sujet qui est omniprésent dans l'actualité et historiographique et politique et dans les différents médias. La remise du rapport du Clerc, c'est 2021, si je ne me trompe pas. Le rapport, il est accessible, il est en ligne, il est très long, il faut se l'approprier. Et il fait encore l'objet de débats, y compris historiographiques.
Bien sûr.
De débats politiques aussi, dont un certain nombre sont judiciarisés. Il y a un certain nombre d'acteurs qui contestent aujourd'hui ce qui peut être dit par les historiens. Et donc, c'est effectivement une question dont, à la fois, il n'est pas question de ne pas parler dans un ouvrage comme celui-ci. Et en même temps, on a trop peu de place pour faire une synthèse du rapport du Clerc et une synthèse de ce qui y est opposé. Et c'est vraiment des débats, comme c'est souvent le cas en histoire, mais des débats très pointus sur les sources premières que ni Pierre-Emmanuel ni moi n'avons vues. Donc en fait, c'est une position de prudence, mais aussi d'humilité devant l'objet, c'est-à-dire qu'on restitue ce qui en a été dit par le rapport du Clerc. Ça a été ça notre ligne. Mais en tout cas, effectivement... c'était important de le mettre et d'en parler d'y accorder une place importante.
Et c'est dans l'article, parce que là vous avez eu des semaines remplies, donc il y a un certain nombre d'articles, vous montrez bien que cette question du Rwanda, elle est aussi, et de manière très compréhensible, un frein à la figure de Mitterrand comme héros de la gauche et comme une figure qui serait pas clivante et à revendiquer. Alors, vous citez, on va avancer vers la fin de l'entretien, vous citez les lettres à Anne, la fin, là pour le coup, c'est d'expérience personnelle, ce qui donne un peu mon âge aussi, mais la fin du deuxième septennat Mitterrand, outre la cohabitation, etc., c'est aussi les polémiques sur les relations personnelles de ses couples, de sa fille, etc., sa maladie. Et donc, il y a un chapitre intéressant aussi sur cette corporalité du politique. C'est-à-dire, c'est aussi un homme avec cette question qui, aujourd'hui, est rentrée dans les mœurs de la santé, de la transparence de la santé des élites politiques et notamment des présidents. Donc, comment vous avez travaillé ça? Là, encore, on revient à l'intime. C'est un homme à femme, un homme de lettres. Comment vous avez travaillé ça? Qu'est-ce que vous avez voulu en dire, cette plongée dans la vie privée de la fin du mandat et...
Effectivement, là aussi, ça s'impose un peu par notre actualité à nous en 2026. Si vous regardez la série Mitterrand confidentiel, elle commence avec Mazarine, le Rwanda, et puis ensuite très rapidement la question de la maladie. Donc en fait, ça s'impose par la chronologie factuelle historique, mais aussi par l'ampleur mémorielle qu'on souhaitait traiter dans le livre. À travers cette question, on voulait interroger la manière dont on traite plus globalement de la question du genre aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question du corps, le Mitterrand, mis en scène par sa communication, etc. C'est aussi un physique, c'est aussi tout un tas d'éléments. Le sportif, on l'a oublié, mais par exemple les vidéos où il va sur la croisette en tant que ministre, etc.
Et ce qu'en font les émissions de l'époque, le bébé de show et les guignols en aussi. Grenouille, etc., mais qui ont laissé des traces très...
Tout à fait, et ensuite c'est l'homme malade, le président, qui cache son état de santé en dépit du fait qu'il y avait une exigence de transparence et des rapports médicaux, puisqu'il y avait quand même le traumatisme de la mort de Pompidou aux responsabilités. Et donc on voulait traiter de cette question... Alors on s'est caché derrière la formule du corps des deux monarques, enfin voilà, c'est un clin d'œil historiographique, mais... et c'était aussi une manière de parler de son rapport de séduction aux femmes, aux électeurs. C'est des comparaisons qui sont faites dans les années 50 et qui, je pense, seraient très mal vues. On n'utiliserait pas du tout les mêmes mots en 2026. Donc c'était une manière aussi de recontextualiser des éléments qui peuvent paraître privés, mais qui en fait sont politiques. Le rapport à la famille, le rapport à la santé, au corps, le rapport aux femmes, le rapport à la séduction, etc.
Et là, c'est intéressant ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que en tant qu'historien, historienne, on fait la même chose, on prend acte de l'accès aux archives. Et par exemple, ces lettres à Anne, dans mon souvenir, elles ont été publiées assez récemment. Et ça donne beaucoup d'informations. Est-ce que c'est une archive, une source riche?
Ça a été publié en 2016, effectivement, chez Gallimard. Il y a un journal où on découvre aussi des collages, un autre rapport à la création de François Mitterrand. La correspondance a effectivement été publiée. Et ça fait, c'est effectivement une source très riche. C'est-à-dire que c'est une source... sur l'écrivain. Je vous parlais de ses voyages. Moi, par exemple, je savais qu'il avait été au Bangladesh en 1971. Mais là, il y a des pages entières où il décrit la situation à Anne Pinjot. Son voyage à San Francisco, il le décrit. Donc, je pense que tout chercheur, les congrès, les coulisses des congrès politiques, alors il y a des ellipses et puis ça reste une correspondance amoureuse. Donc, bien évidemment, il ne faut pas y chercher quelque chose comme les carnets de Michel Cotta qui reviennent sur l'actu politique au jour le jour. Mais c'est vraiment une source et littéraire et historique. Et effectivement, par ce biais-là, ça intègre aussi pleinement le travail de l'historien. C'est-à-dire que aujourd'hui, François Mitterrand, c'est à la fois une personnalité politique, mais aussi très largement une personnalité publique au sens très très large, dont on sait presque tout. Voilà, des goûts littéraires, des habitudes. Il y a eu un film sur son rapport à la gastronomie. Enfin, donc voilà, il y a une espèce de connaissance qui, en tout cas, aspire à être un peu totale du personnage. Et donc, pour nous, il n'était pas question de cliver et de s'en tenir aux résultats électoraux, par exemple.
Alors ça nous amène donc à la dernière question. Vous l'avez dit et je pense que c'est important de le rappeler parce que on pense tous que nos évidences sont celles des jeunes générations et c'est là que c'est important d'être enseignant et enseignante. Mais on est voilà, c'est les 30 ans de la mort. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de la figure? Alors effectivement, ça on peut partir pour une heure, hein, mais qu'est-ce que vous retirez aussi de l'actualité de cette publication? C'est-à-dire, ça vous renvoie aussi quelque chose? Quel est le bilan de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il en reste 30 ans plus tard? C'est le grand président, l'homme de gauche, enfin.
Il en reste. Alors, moi, j'ai l'impression dans les retours de la publication des articles, j'ai l'impression qu'il en reste l'idée, même si l'idée du livre est aussi un peu de contrer ça, que c'est quelqu'un d'éminemment sulfureux. Alors que, en étudiant en historien, il a un parcours qui est plus long que beaucoup, qui est très riche, c'est vrai, mais dont il y a quand même assez peu de mystère absolu. Y compris de son passage de la droite à la gauche, Vichy la résistance. J'en garde justement l'importance de cette séquence. Depuis Pierre Péan en 1994, il y a eu des avancées, des accès à sa correspondance, par exemple, à sa cousine durant ces années-là. Mais j'ai l'impression que ça reste quelque chose de très vif, de très polémique, avec aussi, disons-le, une volonté de créer un peu le buzz qui n'a pas grand-chose à voir avec la recherche de la vérité historique.
Et puis un argument de délégitimisation de la gauche.
Exactement, pour l'utiliser. Et pour voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu de nouveau un ouvrage sur la photo en 2025, donc ça revient en fait. Et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, la Seconde Guerre mondiale en général polarise tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec les faits de l'époque, mais qui disent bien plus de notre présent à nous. J'ai été surprise qu'il n'y ait pas plus d'écho qui soit fait justement à son rapport à l'Afrique, que ce soit son rapport colonial ou et en lien avec la question du Rwanda en 94. J'ai l'impression que voilà, ça intéresse globalement moins. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ça reste incommunicable pour les gens qui ont voté en 80-88. En fait, ça perdure généralement soit la déception de 83 ou les grandes mesures de 81. Et ça prend le dessus. Et les jeunes générations qui sont bien plus sensibles, me semble-t-il, aux questions coloniales et postcoloniales, en fait, ne sont pas encore celles qui sont qui ont la main sur les politiques mémorielles, sur les fictions, sur les célébrations en tête de parti, etc. Et donc ces générations-là, elles le revendiquent moins parce qu'elles sont plus gênées sur ce dossier-là, mais ça apparaît moins, ça affleure moins dans les déclarations publiques, etc. Ça se fait de manière plus off d'une certaine manière.
Et une sorte de disjonction générationnelle, d'une certaine manière.
Alors, on le lit, ça et là, dans des déclarations de plus jeunes députés, etc. Mais voilà, ça reste assez discret. Alors qu'à mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de lui faire intégrer le panthéon des grandes figures de gauche consensuelles. Ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne sera pas au vu de son parcours. Et puis, du côté des choses aussi un peu plus pérennes, il reste de François Mitterrand tout un tas de bâtiments. Souvent, quand les gens pensent à Mitterrand, il y a eu le film sur l'Arche de la Défense. Il y a aussi un héritage patrimonial et architectural. L'homme de lettres, c'est une des thématiques qui revient. Il y a eu là un documentaire de Mazarine Pinjot sur cette question. Et ce sera ce sera le thème d'un grand colloque à venir là en octobre 2026, mené notamment par l'Institut François Mitterrand et la BNF. Parce que sur ces manuscrits originaux, sur ces bibliothèques, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas ou qu'on voudrait mieux comprendre dans son rapport aux lettres. Donc voilà un peu sur les grandes tendances sous réserve de l'émergence d'un nouveau corpus. Et en l'occurrence, on sait beaucoup de choses, mais de ces correspondances, des archives du fort privé, au fur et à mesure que les témoins disparaissent et que leurs héritiers se posent la question de quoi faire de leurs archives, apparaissent de nouvelles choses, effectivement, qui potentiellement, alors je ne suis pas sûre qu'elles révolutionneront la vision qu'on en a, mais viendront préciser tel ou tel point, telle ou telle séquence de sa vie.
Alors merci beaucoup aussi pour cette voilà pour la présentation du livre, mais pour l'explication de comment on peut aujourd'hui dire du neuf du point de vue des archives et aussi de cette belle synthèse. Donc Mitterrand, 224 pages au PUF. Et je rappelle pour celles et ceux qui voudraient voilà approfondir ces questions de relations internationales et de politique internationale des partis, Changer la vie et le monde, hein, que vous avez publié l'année dernière aux éditions Le Bord de l'Eau. Judith Bonin, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.